Martin Fogg, salutations.
Ça va bien, Luc?
Ça va très bien, merci. Et toi, qui es un ex-membre des Forces armées canadiennes, qui est journaliste indépendant. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose qui était publié dans le Ricochet, quoi, c'est samedi, je pense?
C'était samedi, oui.
Ouais. Et tu me disais que tu travaillais sur un balado, une série, un balado
Oui.
diffusion qui sera disponible sous peu.
Oui, qui va être
Avant ou après
disponible.
les fêtes?
Avant, en principe.
All right.
C'était supposé être pour le jour du souvenir, mais il y a eu des délais dans la production. Donc, il a fallu s'adapter.
Est-ce que la plateforme Première Plus existe encore ou...
Oui.
Oui, OK, c'est comme ça qu'ils l'appellent
Oui.
encore. Il me semble que j'entends plus parler de Première Plus.
Ben, c'est parce que c'est comme une intégration, si on veut. Et puis, de toute façon, moi, je reste indépendant. Donc,
Bien
eux,
sûr.
ils font leurs affaires un peu comme ils veulent, là.
Oui, non, non. Ça, et c'est une très belle plateforme en ce sens.
Ah, tout à
Ça
fait.
donne une très belle visibilité.
Mais c'est parce que le balado, c'est un peu l'avenir de la radio. C'est l'avenir un peu de la radio, là. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, c'est un retour sur le passé parce que souvent, ça ressemble un peu aux anciens radio-romans, mais c'est plus sophistiqué un peu, là,
Ben, ça
quand on y
dépend du
pense.
type de balado, mais c'est vrai que le balado nous permet de donner une vie plus longue au contenu
Tout à fait.
parlé.
Tout à fait.
Alors que trop souvent, c'est dit une fois, les gens ont travaillé très fort pour trouver l'information, la partager, puis oups, c'est fini. Tandis que
Voilà.
la toune de Britney, elle va passer tous les 20 minutes pendant 18 ans.
Tout à fait.
Alors que c'est pas nécessairement la chose la plus pertinente à entendre, pas toujours du moins. Aujourd'hui, je voulais te parler parce que on voulait revenir un peu sur la réadaptation qui était proposée ou non proposée par les forces armées à ceux et celles qui travaillent sur le terrain. On entend beaucoup parler de syndrome post-traumatique depuis quelques années. Tu es venu même nous expliquer que toi-même, tu avais subi et tu continuais de vivre malgré ça et tu retrouvais tes repères tranquillement. Mais est-ce que, justement, en 2018, on sent de plus en plus d'aide? Il n'y en a sûrement pas suffisamment, mais est-ce qu'au niveau réadaptation, de quel ordre que ce soit, il y a une amélioration?
Je dirais, bon, pour le vivre en temps réel, je dirais que oui, quelque part, il y a une petite amélioration dans le sens où maintenant, on rend disponible les services de réadaptation, justement, pour les vétérans, même s'ils ne sont pas encore titulaires d'une pension, qu'ils n'ont pas reçu nécessairement leur indemnité selon le degré puis la gravité de leur blessure. Donc, ces services-là, c'est tous les services psychothérapie, physiothérapie, etc., tout ce que le vétéran a besoin. Donc, en attendant le versement de l'indemnité ou de la pension, ben ça dépanne. Puis, ça donne aussi accès à ce qu'on appelle l'allocation de perte de revenus, c'est-à-dire que si tu te retrouves sans emploi, tu as droit à 90% de ton dernier salaire comme militaire.
Maintenant, bon, ça c'est l'aspect économique, l'aspect physique, l'aspect émotif. Est-ce qu'on est assez rapide à fournir le soutien?
Oui et non, ça s'explique assez facilement, c'est-à-dire que chez les militaires actifs, il y a tout un système en place, bien, tout le système de santé de l'armée est encore accessible parce qu'ils sont encore à l'intérieur du système et ça, c'est assez rapide, c'est très efficace. Le système de santé de l'armée est aux antipodes complètement du système de santé
C'est ça, l'armée a ses
public.
hôpitaux, ses
Oui,
spécialistes. OK.
de plus en plus, justement, avant, on envoyait beaucoup à l'externe. Maintenant, on se dote de services psychosociaux à l'interne depuis quelques années. Du moins, on a amplifié l'offre. Fait que, tu sais, ça s'est venu combler certaines lacunes. Mais le problème, c'est quand le militaire quitte les rangs de l'armée, devient, bon, tu sais, évidemment, tout le traitement, toute la prestation des services, ça dépend du ministère des anciens combattants. Et là, ça devient compliqué parce que souvent, comme dans mon cas personnel, je vais l'évoquer parce que je le connais bien, c'est que j'ai pas eu de diagnostic par rapport au syndrome post-traumatique pendant mon
C'est
service.
ça, ça a pris un certain
Et
temps, un bon
ça
bout de
prend
temps.
du temps et ça prend beaucoup de conviction, ça prend un dossier étoffé. Donc, ça rend les choses très compliquées et faut comprendre qu'un militaire en détresse n'aura pas nécessairement tous les outils, n'aura pas la motivation, n'aura pas l'énergie. Donc, si la personne est complètement isolée, ce qui est souvent le cas chez les militaires qui vont être en situation de syndrome post-traumatique, c'est-à-dire qu'on s'isole beaucoup, on rejette un peu des fois les liens qu'on a avec les gens, même qu'on aime, les gens qui sont proches, et ça, bien évidemment, ça augure très mal quand vient le temps d'aller chercher de l'aide.
Ouais. Je suis sur le terrain. Malheureusement, je marche sur une mine. À l'époque, je pense qu'on nous envoyait en Allemagne. C'est-tu encore comme ça? C'est-tu là qu'on commence la remise en santé, si on veut?
C'est-à-dire que c'est la base militaire de ouais. Ramstein en Allemagne, où ils ont un gros hôpital qui, dans le fond, c'est un hôpital américain, okay. Donc géré par l'armée américaine, et c'est là qu'on envoie les cas très graves de blessures. Et par après, bon, c'est une étape pour ramener les militaires vers la maison. Mais avant ça, en tout cas, du moins, dans le temps en Afghanistan, je ne sais plus aujourd'hui si c'est le cas, parce que le Canada n'est plus très présent. La première étape où on stabilisait le militaire avant de l'envoyer en Allemagne, il y avait un hôpital quand même très fourni sur la base de Kandahar. Et de toute façon, le processus commence sur le terrain, okay, avec ouais. le combat medic, là, pour prendre une expression anglophone, qui stabilise déjà le blessé. Et par la suite acheminer en hélicoptère, et tout le processus, pour l'avoir vu, c'est extrêmement efficace. Peut-être qu'Urgence Santé pourrait s'en inspirer.
Oui. OK. Maintenant, lorsqu'on arrive au Québec, est-ce que c'est long? Est-ce qu'il doit y avoir des évaluations et tout avant qu'on puisse commencer à avoir un physiothérapeute, commencer à avoir un programme d'exercice pour sa réadaptation?
Encore une fois, c'est, tout dépend de est-ce que tu es actif ou est-ce que tu es... Vraiment, c'est ça. Ouais. Le grand fossé, c'est vraiment entre les militaires actifs et ceux qui sont partis. Dans le cas, bon, justement, de militaires actifs, comme je disais, tout ça va se faire tout seul, tout ça va se faire à l'intérieur même de la machine bureaucratique militaire. Plusieurs années plus tard, si tu n'as pas eu de problème dans l'armée, ça vient plus tard, ben là, si tu n'as jamais eu de diagnostic, si tu n'as jamais eu de traitement pour ça, quand tu étais dans les rangs, là, ça devient compliqué. Et dans les cas extrêmes, il y a quelques années, il y a environ 4 ans et demi, il y a eu une vague de suicides chez les militaires qui a fait la manchette. Mm-hmm. Et c'était tous des militaires actifs. Moi, la question que je me pose dans ce temps-là, c'est qu'est-ce qu'il y en est de ceux qui se suicident après qu'ils soient partis, parce que c'est pas, que tu sois vétéran ou pas, c'est pas une donnée qui est recueillie.
On n'entend pas parler de ces gens-là.
Ben absolument pas. Ouais. C'est pas une donnée qui est recueillie par, que ce soit par la police, que ce soit par le coroner. Donc, on sait jamais. On sait pas combien de vétérans qui ont quitté l'armée se suicident.
Il y a de plus en plus de lignes spécialisées pour venir en aide à ceux et celles qui ont besoin de parler, que ce soit tel jeune, que ce soit gay, écoute. Est-ce que l'armée canadienne ou peut-être un particulier a mis sur pied un système du genre?
Ben, il y a une ligne, il y a un service d'aide ancien combattant Canada. C'est soit pour les vétérans en tant que tels ou leurs proches, leurs familles. S'ils ont besoin d'une assistance immédiate, ils peuvent appeler. Je vais donner le numéro de téléphone, c'est le 1-800-268-7708. C'est si jamais vous, à la maison, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a fait l'armée, qui a des problèmes, vous appelez là et là, on va vous fournir une assistance immédiate. Mais quand on appelle là, c'est vraiment parce que la situation est critique, là.
Oui, OK. Et... On bouge. C'est autant là, les gens du Manitoba que les gens... Ça va quand même vite. Il n'y a pas de provinces qui sont plus avantagées ou de disciplines dans l'armée qui vont avoir des services plus rapidement.
En principe,
on est tous égaux.
Supposé.
OK. Si tu avais à améliorer, je pense... Ce que j'entends, c'est améliorer le sort de ceux et celles qui ne sont plus actifs. Qu'est-ce que tu proposerais? Qu'est-ce qui pourrait être fait, peut-être?
Il y a cet aspect-là qui est beaucoup plus... Donc, je vais commencer par le plus simple. Pour ce qui est de l'armée en tant que telle, quand tu es en le système, je pense que ça s'améliore depuis quelques années, mais il y a tout un changement de culture qu'il faut continuer à opérer par rapport justement au fait qu'une blessure, puis une blessure de santé mentale, tout ça, c'est pas une honte.
Ouais.
Il y a encore une culture très, très machiste dans l'armée. Ça va avec le territoire, comme on dit. Mais donc, il y a cette perception-là souvent que si t'es blessé, si t'es malade, c'est un signe de faiblesse, tu le caches, ça pourrait nuire à ta carrière, etc. Donc, je pense qu'il y a eu des progrès, mais il faut continuer à travailler dans ce sens-là. De l'autre côté, les militaires qui sont sortis, je vais donner la réponse facile, bonifier l'offre de service.
Ouais, ouais.
Surtout que les conservateurs ont complètement éventré le ministère des Anciens Combattants pendant leur règne. Surtout dans, mettons, disons, entre 2013-2015, c'était épouvantable. Mais l'autre, c'est pour les proches, il faut être vigilant. Il faut reconnaître les signes de détresse chez un militaire qui pourrait commencer à avoir des problèmes de santé mentale parce que, et je l'ai fait moi-même, il y a beaucoup de déni qui s'opère.
Mmh.
Énormément, parce qu'on plus facile de nier une blessure mentale qu'une blessure physique. Et si tu te casses une jambe, t'es enflé, ça fait mal.
Ouais.
Si tu tombes en dépression, si t'es post-traumatique, c'est plus facile de le cacher.
Oui, c'est sûr, non, on s'en aperçoit même pas.
Souvent, on s'en aperçoit même pas soi-même. Ouais, donc, ouais. Être très vigilant devant vos proches. Sachez reconnaître les signes. Là, je m'embarquerai pas là-dedans parce que je suis pas moi-même psychologue, mais faut se renseigner. Faut vraiment faire ça. Faut couvrir les angles morts que le système ne couvre pas. Mais par contre, éventuellement, il va falloir que le système se bonifie. Parce que, je veux dire, l'Afghanistan commence loin derrière nous,
ouais.
Mais il y a des milliers de jeunes là, qui ont servi, qui sont plus dans l'armée, qui vont commencer à avoir des problèmes. Donc, toute une nouvelle génération, finalement, là, qui va avoir besoin de soins. Donc, il faut absolument bonifier cette offre-là.
En terminant, j'ai l'impression que le Canada va moins se diriger vers des missions, disons, d'attaque, des missions guerrières. Est-ce qu'il y a pas un danger que justement on mette pas plus d'argent dans la réhabilitation parce qu'on met moins d'argent dans ce qui cause les blessures?
Je dirais que non, parce que de toute façon, d'après pour moi, j'ai l'impression que la demande va augmenter pour les raisons que j'ai évoquées à cause de ça. Et même des missions dites de maintien de la paix, pensons à la Bosnie. Dans les années 90, les gars revenaient complètement dévastés. Et là, il y a une mission au Mali présentement. Une mission qui, malgré, bon, c'est réduit tout ça, mais il y a quand même des dangers. Les militaires vont être exposés à la misère, vont être exposés à certaines... Ils vont accumuler du matériel à possiblement avoir des problèmes. Donc, ça se poursuit toujours. Peu importe la mission, on va toujours avoir besoin d'une aide... au retour, et pour citer le sénateur Bernie Sanders, il avait déjà dit au Sénat américain, si on n'a pas les moyens de s'occuper de nos troupes à leur retour, ben on n'a pas les moyens de les envoyer.
Ouais, il a tout à fait raison. Merci beaucoup, Martin Ford.
Ça fait plaisir, Luc. Merci beaucoup de l'invitation.
Signe lorsque le balado entre en onde.
Tout à fait.
Et malheureusement, c'est bête, j'oublie le titre, mais allez sur la page de Dimanche Magazine. Non, c'est pas vrai, c'était une émission spéciale hier. Donc, allez sur le site web de Radio-Canada, il y avait un fabuleux documentaire sur des soldats qui, 25 ans plus tard, étaient retournés en Bosnie l'été passé. Et les micros les ont suivis, c'était...
Faire la paix avec la guerre.
Oui, bravo, voilà. Bravo Martin. Faire la paix avec la guerre, trouver ça, écouter ça, c'est vraiment humain, c'est bien fait, c'est pas larmoyant, c'est très, très bon. Merci, Monsieur Forgue. On sort toujours notre petit Pat Metheny lorsque Martin... Une fois par deux ans, on sort cette toune-là, puis on l'écoutera pas au complet parce que nous, on veut causer d'un nouveau sondage qui parle de ce qui est et ce qui n'est pas accessible pour les personnes sourdes.